Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Véronique Jacquier est avec nous, Jean-Loup Bonamy est avec nous, Luc-Antoine Lenoir est avec nous, de Figaro, et Gauthier Lebret. Bon, quand je dis on ne change pas grand-chose, factuellement aujourd'hui, ça j'ai entendu de vouloir clarifier les situations des groupes des uns et des autres. J'ai entendu également de gouverner avec des compromis nouveaux, des coalitions, pourquoi pas, des accords, etc. Mais tout ça, ce sont des vœux pieux ce soir, et ce que je remarque ce soir, c'est que le Premier ministre est toujours en place. Aucune décision n'a été faite. Le vote a eu lieu dimanche. Et chacun est renvoyé.
Et il part pour une semaine, Emmanuel Macron.
Chacun est renvoyé, j'ai envie de dire, à ce qu'il peut, à ses chères études, en attendant. Débrief, peut-être ?
Oui. Véronique Jacquier. Une bonne nouvelle, c'est qu'a priori, peut-être que nous allons assister à la fin du « en même temps ». C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron découvre le compromis. Je vous rappelle quand même que pendant 5 ans...
C'est quand même...
Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que...
Sur tous les tons.
Non, mais sur le fond, il va être obligé quand même d'aller vers des alliances au cas par cas ou vers des compromis. Cela dit, où je pense qu'effectivement, il y a un peu d'entourloupe dans le discours présidentiel, c'est qu'il nous dit « nous allons devoir apprendre à gouverner autrement ou à faire de la politique autrement ou à faire des compromis autrement », alors que finalement, la méthode qu'il nous propose est vieille comme le monde et qu'elle est dans les institutions de la Ve République depuis 1958. C'est-à-dire que quand on nous crie au loup pour tous les blocages potentiels, le gouvernement a quand même dans sa manche toutes les armes pour gouverner s'il veut gouverner.
Il est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Oui. Il a reçu tout.
D'accord.
Il a reçu hier tous les leaders chefs de parti qui lui ont dit « on est dans l'opposition, on ne veut pas de coalition ni gouverner avec vous, on n'en veut pas ». Et lui, il vient depuis 2 jours de dire « faut qu'on gouverne ensemble ». C'est une stratégie, mais les LR ne disent pas cela. Que je sache, l'ANUPS, n'en parlons pas, le Rassemblement national est opposé. Ce que vous dites ce qu'il dit ce soir, ça s'appelle des vœux pieux.
Non, moi je
c'est de la communication pire.
Moi je comprends autre chose. Je comprends qu'il dit on va enfin respecter le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ce qui n'était pas le cas pendant 5 ans parce qu'ils avaient une majorité absolue.
Mais c'est même Monsieur
Lenoir. Il a éventuellement le 49-3, là il a le vote bloqué, là il a la dissolution. Voilà. Et il a peut-être à faire aussi des textes qui seront un petit peu plus des textes de compromis.
Ça, les mesures de l'exécutif.
Lors de la dictature sanitaire. Enfin, j'aime pas le mot dictature, mais on se comprend.
Oui, mais en fait, si vous voulez, là, ce qui est quand même incroyable ce soir, c'est le culot. Il vante presque.
Jean-Luc Mélenchon est en train de parler. On l'écoute quelques secondes.
Les autres du nôtre. Dorénavant, il ne peut y avoir d'autre réalité que celle-ci. L'exécutif est faible, mais l'Assemblée nationale est forte de toute la légitimité de son élection toute récente. À partir de là, rien ne doit permettre de passer à côté de l'exigence démocratique qui s'impose dans tous les pays du monde où existe une démocratie et un parlement. La Première ministre doit se présenter devant l'Assemblée nationale, présenter un programme d'action et solliciter la confiance de l'Assemblée. Si elle ne l'a pas, cette confiance, elle doit démissionner. Si elle l'a, elle devra ensuite faire des propositions de textes de loi et l'Assemblée en discutera, comme elle a discuté de tous les autres textes de loi dans le passé. Le président dit que dans cette hypothèse, il faudra considérer les propositions de chacun. Nous ne le croyons pas. Pourquoi ? Parce que pendant les 5 dernières années, de manière systématique et absolue, tous les amendements présentés par les oppositions ont été rejetés par le gouvernement, en tout cas toutes celles qu'a présentées le mouvement insoumis. Il est donc absolument vain d'essayer de dissoudre la réalité du vote en l'enfumant de considérations et d'appels de toutes sortes qui n'ont pas de sens. Nous sommes pleinement et totalement responsables lorsque, dans une assemblée, on prend la décision qui paraît conforme à l'engagement qu'on a pris devant ses électeurs. Je me répète, inutile de contourner la réalité. Madame la Première ministre, comme dans toutes les démocraties du monde, doit se présenter devant l'Assemblée nationale et solliciter sa confiance. Si elle n'a pas cette confiance, elle doit s'en aller. Et si elle a cette confiance, elle présentera des textes. Et alors, sur la base des textes, chacun fera, comme il l'a fait dans le passé, les propositions qu'il estime nécessaires et qui sont conformes à l'intérêt général. Personne ne gagnera rien. Dans des institutions qui ont montré clairement leurs limites et le tohu-bohu incroyable que crée la juxtaposition d'un pouvoir présidentiel et d'un pouvoir parlementaire. Que dans de telles institutions on y ajoute de la confusion par des votes qui sont sollicités d'avance de combine, cela est une erreur totale. L'urgence reste qu'elle était. C'est une urgence sociale. Voyons ce qu'il est possible de faire. Ce que nous avons à dire, nous l'avons déjà dit. Et les électeurs ont élu un certain nombre de députés, non négligeables, vous en conviendrez, pour porter ce programme. Eh bien, c'est de cela dont nous partons et c'est sur cela que nous resterons. La force doit rester à la loi de la démocratie. Le vote de confiance, réussi ou échoué, et ensuite la discussion de textes législatifs. Il est inutile de gloser au-delà, parce que de toute façon, telle est la réalité qui s'imposera. Merci.
Évidemment, c'est très malin de la part de Jean-Luc Mélenchon.
Jouer le premier opposant.
Tout de suite, mais c'est vrai que je me faisais la réflexion en l'écoutant et qu'on lui donne une place qu'il ne devrait peut-être pas avoir.
Il n'est plus député,
il n'est pas chef de l'opposition, que je sache. Bon.
Et il n'aura pas le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale.
En même temps, là où il est très habile, et je pense qu'effectivement, c'est d'intervenir immédiatement après lui, de telle sorte que... C'est le principe aussi des chaînes d'information, de donner l'actualité et de donner l'information en continu.
Moi, je pense que c'était tout à fait légitime lui donner la parole ce soir.
L'avons fait.
Donc, mais vous venez de dire que ce n'était peut-être pas si normal.
Il n'est plus rien. Permettez-moi de vous le dire comme ça. Il n'est plus député, il n'est pas chef de l'opposition que
mais
je sache.
Mais s'il n'avait pas mené la campagne qu'il a menée mais autour de son nom, il n'y aurait pas autant de députés.
J'entends ce que vous dire, mais une nouvelle fois,
il regrette
trouvé...
peut-être d'ailleurs de ne pas s'être représenté. Parce que hier, on l'a vu à l'Assemblée nationale, puisqu'il restait un jour pour qu'il soit à l'Assemblée, vu que son mandat a expiré hier soir à minuit. Il regrette peut-être de ne pas s'être présenté.
En plus, il n'a pas dit grand-chose, finalement, de...
La confiance à Elisabeth Borne doit lui être votée.
Où il a redit ce qu'il avait déjà dit. Mais en revanche, tour de table pour décrypter ce qu'a dit Emmanuel Macron et ce que vous percevez dans sa volonté prochaine.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est le culot. C'est-à-dire qu'il arrive en disant mais en fait, c'est très bien. Il nous présente peut-être presque les bienfaits de la démocratie parlementaire, tels que plein d'autres pays européens ou démocratiques le font, etc. Et la phrase d'après, c'est « Mais vous avez été élu sur un projet très clair en avril dernier et vous allez devoir avancer là-dessus. » Donc il fait un espèce de numéro d'équilibriste qui, en fait, dans le fond, est là pour servir sa combine, c'est-à-dire aller chercher les quelques dizaines de députés qui lui manquent pour avoir une majorité absolue et faire un gouvernement. Et là, ça va être une période de débauchage. Moi, je me place... Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on se place du point de vue des opposants que sont LFI et RN, il a dit donc il y aura des compromis avec tous les acteurs de l'Assemblée, etc. Et ce matin, le ministre Olivier Véran, chargé des relations avec le Parlement, disait « Oui, mais on va exclure LFI et RN, cela, on ne reparle pas ». Donc c'est incroyable quand même. Là, ce discours, c'était quand même une moquerie d'un point de vue institutionnel, quoi.
Il a deux possibilités, Emmanuel Macron. Soit effectivement, il va chercher texte par texte une coalition et alors il doit déjà changer de ministre des Relations avec le Parlement, Olivier Véran, qui a réussi à insulter la moitié des députés ce matin. Soit il joue le pourrissement en disant « Regardez, j'ai tendu la main, je les ai tous reçus à l'Élysée, un par un, personne ne veut de coalition, personne ne vote mes textes. » Et donc il dissout dans un an et il demande aux Français « Donnez-moi une vraie majorité pour pouvoir gouverner puisqu'il ne l'opposition ne l'a pas voulu pendant plusieurs mois. »
Une nouvelle fois, il va vouloir gagner du temps. Ce que je résume en disant, il va vouloir faire le malin.
Donc il va vouloir
jouer au plus fin.
Voilà, jouer au plus fin. Il va vouloir gagner du temps parce que le temps va peut-être marcher pour lui ou pas d'ailleurs. Il faut toujours faire attention dans ces cas-là. Elisabeth Borne, il va la garder jusqu'au bout du bout du bout. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense une motion de censure. Pour faire tomber un gouvernement, il faut que le Rassemblement national vote le même texte avec la NUPES et LR. Je vous assure, ce n'est pas gagné.
Oui, parce que la NUPES va déposer une motion de censure.
La motion de censure sera votée par 289 députés. Oui, tout à fait.
Ce n'est pas gagné. C'est-à-dire que vous allez faire voter dans une assemblée le même texte par la NUPES et par le Rassemblement
dans la
national.
La motion de censure de la NUPES, la NUPES va mettre qu'il faut appliquer sa politique
oui,
avec son programme.
Il faut que ce soit le même texte. C'est très, très précis, la motion de censure. Parce que tout le monde dit depuis dimanche « ingouvernable ». C'est plus complexe que cela. D'ailleurs, Éric Zemmour l'a rappelé tout à l'heure très justement. Et c'est l'esprit de la Ve République avec comment Michel Debré avait imaginé précisément qu'il n'y aurait pas de majorité absolue. Et qu'il avait fait toute une...
C'est ce que je vous dis.
Et la seule motion de censure qui est passée.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a le recours au 49-3, au vote bloqué, à la dissolution.
Bien sûr.
Donc il a rappelé. Mais ce
le pari d'Emmanuel Macron ce soir, c'est évidemment pas la coalition ni quoi que ce soit. Ça s'appelle de l'enfumage. Ça s'appelle de l'enfumage. Le pari d'Emmanuel Macron, c'est je gouverne avec la majorité relative. C'est ça son pari.
Ce sera impossible.
Et c'est surtout d'apprendre à gouverner.
Ça sera impossible de faire voter les textes avec une majorité. Le RN votera contre, la NUPES votera contre, les LR voteront contre.
Alors, et comme vous dites, pour attendre un an et dissoudre.
Et exactement, pour jouer le pourrissement.
Non, mais moi, il y a plusieurs points que je trouvais intéressants dans ce discours. C'est en effet, le déni du désaveu exprimé par les Français vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron lors des élections législatives. Donc il y a une façon de faire semblant de ne pas voir. Voilà, faire semblant de ne pas voir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis en effet d'accord, il va continuer et accentuer sa tactique qui est celle qu'il mène depuis 2017, c'est-à-dire la tactique du débauchage. Il va essayer de débaucher
certains... Ça va être plus compliqué, ça.
Ça sera compliqué. Oui,
parce que les LR, visiblement...
Ceux qui restent à ceux qui ont été élus, c'est ceux justement qui veulent
mettre... Il va essayer de débaucher certains LR.
On écoutera tout à l'heure, par exemple, M. Morlaix.
De débaucher Marlex.
Oui, Marlex.
De débaucher...
Président du groupe.
Oui, président du groupe. Entre guillemets, c'est un dur.
Très anti-Macron.
Très anti-Macron.
Lui, il ne va pas vouloir passer de l'autre côté.
Qualifie Emmanuel Macron de liquidateur.
Oui.
Et donc, il va également essayer de débaucher des gens, des ex-NUPES, qui ne sont évidemment pas des insoumis, mais qui seraient des gens d'Europe Écologie Les Verts ou des socialistes. Donc, il va essayer de les débaucher.
David Habib, on a vu
qu'il passer à... Enfin, il va jouer, je suis tout à fait d'accord avec vous, il va jouer la montre, il va temporiser, jouer au plus fin. Mais le problème, c'est que le pays est tellement fracturé, que la situation est tellement grave, tellement explosive que ça a très probablement, en fait, joué au plus fin, ça va se terminer dans la rue et dans la violence.
Faut pas le souhaiter.
Oui, je ne le souhaite pas du tout. Mais il fait comme s'il n'y avait pas cette possibilité.
Non seulement il ne faut pas le souhaiter, mais il ne faut pas le prophétiser non plus. Parce que, effectivement.
Je suis d'accord avec vous, mais alors il ne faut pas tout faire pour qu'on y arrive, et c'est ce que fait Emmanuel Macron. Là, il fait comme si la société française n'existait pas, en fait.
Pardonnez-moi, mais quand je vous dis.
Ça s'appelle le déni.
Le déni de la réalité.
Ce qui s'est passé dimanche n'existe pas. Je peux comprendre ce qu'il dit. Il dit d'ailleurs.
Si ça n'existait pas, il aurait quand même pas reçu tous les patrons de groupes.
Oui, mais s'il a dit ce soir,
il faut bien bouger un peu.
Très rapidement,
dans son discours, il l'a articulé après avoir parlé de la législative. Il a très rapidement parlé de la présidentielle. Il a dit vous m'avez demandé un mandat clair, et il a égrené les grands sujets de la présidentielle. Donc ça ne remet pas, pour lui, ça ne remet pas en cause son élection. Il n'a pas compris, Emmanuel Macron, qu'il est mal élu.
Il est légitime.
Il a été élu à une époque où le Front Républicain marchait. Donc là, ce qui est quand même incroyable, c'est que j'ai un peu de sollicitude pour les électeurs de LFI qui ont voté pour lui. Et à qui il disait entre les deux tours, on va se rassembler, on va recréer un projet, des choses comme ça. Ils ont joué le Front Républicain. Là, ils voient que ça s'est éclaté. Mais comment ces gens peuvent se sentir?
Mais une nouvelle fois, quand on dit joue plus fin, il renvoie la responsabilité du blocage chez les autres. Vous ne prendrez jamais en défaut Emmanuel Macron sur son intelligence tactique. Il est très habile, très fin, très subtil. Il n'y a pas de souci. Simplement, tout ça est décodé aujourd'hui. Et là où c'est particulier, c'est que c'est contre-productif. Ça agace les gens. C'est-à-dire que les gens voient maintenant tout, disent non, ça va. Ça va. Ouais,
il est très
vous êtes très intelligent, ok, mais ça va.
Je vais reprendre une distinction classique. Il est très intelligent par rapport au pays légal, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, aux partis politiques. Là, il y a une intelligence tactique hors pair. Oui. Mais il n'est pas du tout intelligent par rapport au pays réel, c'est-à-dire à la société, à la masse des Français.
Il y a deux choses.
Voilà. Là,
non, mais il y a deux choses.
C'est ça qui peut agacer, d'ailleurs, de ne pas prendre les gens à voter dimanche. Voilà. Ils ont voté et ils ont récusé son projet présidentiel. C'est ça la réalité.
Il est minoritaire. Dans
ils ont surtout donné la majorité à personne.
Moi, je ne dis pas qu'il est légitime. Je dis, de ce fait, j'en tire la conclusion, il est mal élu. Le 58,5 était un leurre. Si le 58,5, s'il avait été bien élu, il aurait eu dimanche une majorité pour appliquer son programme. Ce n'est pas le
mais
cas.
Mais dans ce cas-là, Pascal, les Français ont rejeté les programmes de chaque parti. Ils ont donné leur assentiment à aucun parti, à aucun programme.
Mais quand je dis que
la vraie question est quand même de gouverner, c'est que qu'est-ce qui va se passer avec cette législature qui s'annonce? On va avoir des textes qui vont être complètement édulcorés. Il n'y aura aucune réforme de possible. Donc les grands.
On va voir. La réforme des retraites qui est possible avec.
Alors David Guiraud est avec nous. David Guiraud est avec nous. Ah oui, mais alors David Guiraud, ça fait deux France Insoumise en 10 minutes.
Il était là ce matin, non?
En plus, on ne se quitte plus, si vous me permettez, parce que vous étiez ce matin avec nous. Je vous revois ce soir. Ce n'était pas prévu que le président Macron parle. Mais comme votre patron ou ex-patron ou celui qui n'est plus rien chez vous, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait, Jean-Luc Mélenchon, a parlé, vous redonnez la parole. Vous conviendrez que vous avez sur CNews, la France Insoumise, une place de choix désormais.
Mais ça vous rendrait presque heureux.
Écoutez, moi j'ai apprécié l'échange que nous avons ce matin. Votre analyse?
Bah, écoutez, il fait un constat juste, le pays est divisé et Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue. Le problème, ce n'est pas son constat. Le problème, c'est qu'il nous demande quelque part à nous, députés, de rendre des comptes. Mais on n'a pas de compte à lui rendre. Moi, j'ai des comptes à rendre qu'aux gens qui m'ont élu, pas à Emmanuel Macron, pas au président de la République. Et j'aime pas trop cette manière de parler comme un DRH, vous voyez, de dire, écoutez, on va voir jusqu'où ils sont prêts à avancer. On n'a pas de compte à lui rendre. La démocratie se fera à l'Assemblée nationale. Voilà, point. Ça se fera, et s'il n'est pas content, c'est pareil. Donc il y aura des discussions, il y aura des projets de loi. On va les discuter, sérieusement. Hein. Il ne s'agit pas
Est-ce que vous pourriez imaginer, quand il parle de compromis nouveau, quand il parle de coalition, quand il parle d'accord possible, quand il parle d'un dépassement politique, c'est un terme qu'il a employé, est-ce que vous pourriez imaginer être d'accord avec le président Macron, avec sa majorité, sur quelques textes?
Mais pour tous les gens qui observent la vie politique, c'est pas une proposition qui est faite à la France Insoumise, ça, ni à la NUP. C'est une proposition pour les Républicains. Enfin, je veux dire, il faut pas qu'on se mente. C'est une proposition qui est faite aux Républicains et peut-être à deux, trois autres personnages un peu isolés. Mais c'est pas du tout à la France Insoumise. Nous, ce qu'on va faire, c'est... Oui, mais je réponds. Nous, ce qu'on va faire, c'est notre travail. C'est-à-dire, il va y avoir un projet de loi qui va arriver. Et ben, on va examiner ce qu'il y a dans le projet de loi. Si on est d'accord avec tout, on signe tout. Si on est d'accord avec rien, on signe rien. Selon notre mandat. Et qui je le rappelle, parce que Emmanuel Macron fait des constats, il nous dit il faut pas augmenter les taxes ni rien. Mais d'accord, mais vous connaissez notre ligne politique sur la question du blocage des prix. Bah on est pour que ce soit les fournisseurs qui le fassent. Voilà, que les fournisseurs prennent leurs responsabilités. Total, 16 milliards d'euros de dividendes, de bénéfices nets l'année dernière, qui est un record absolu quasiment pour cette multinationale. Plein d'entreprises. Notamment sur la question du coût des pâtes. Vous savez qu'on n'est pas en train de consommer les pâtes qui ont été récoltées pendant la guerre en Ukraine. Là. C'est des récoltes de l'année dernière qu'on est en train de consommer. Donc c'est la spéculation qu'il faut briser. Bon bref, voilà, nous c'est notre mandat, c'est notre programme politique. Si ça va dans ce sens, bah pourquoi pas. Mais si ça ne va pas dans ce sens, ça sera non. Et Emmanuel Macron devra s'y faire.
Ah oui, maintenant vous dites Emmanuel Macron, parce que ce matin vous disiez Macron.
On en a discuté, vous l'avez fait remarquer. Vous avez raison, je pense que...
Donc maintenant non, vous dites Emmanuel Macron.
Oui, j'essaye de me fondre dans le rôle,
vous
voyez.
Bon, vous êtes dans le Nord, vous êtes reparti dans votre circonscription, vous êtes toujours à Paris, Monsieur Guiraud?
Non, là, je suis au Lila, je repars demain.
D'accord. Eh bien, écoutez, il y a un objectif, en tout cas, puisque vous êtes venu plusieurs fois ici. L'objectif, c'est que dans la ville de Waterloo, qu'il y ait une piscine à la fin de votre mandature. Ça, je trouve que ce serait intéressant, puisque vous nous l'avez dit.
Je vous tiendrai informé, j'aimerais voir le maire... pour lui en parler, parce que je vois qu'il y a quand même ce sujet-là qui est posé sur la table.
Bien sûr.
Et puis on va voir.
On en a parlé plusieurs fois, je fais référence, alors tout le monde n'a pas vu nos émissions le matin, mais parfois, effectivement, M. Guiraud était venu, je lui ai parlé du burkini dans les piscines, et il m'avait dit, mais vous savez que dans ma ville, à Waterloo, il n'y a même pas de piscine. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant qu'il nous dise ça. Merci, David Guiraud, et bonne soirée à vous. Que dites-vous? Que vouliez-vous dire?
Non, mais je ne pensais pas qu'on passerait de la piscine d'Emmanuel Macron à la piscine de Waterloo.
Non, mais c'est le charme, c'est le charme.
C'est le charme de cette émission, c'est le charme de cette sans transition.
De pouvoir...
C'est terrible, parce que dans l'intervention de ce député, avec laquelle on peut être d'accord ou pas d'accord, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'éléments concrets que dans la déclaration d'Emmanuel Macron. Ce qu'il a dit sur les pâtes, moi c'était un peu simpliste, mais c'était quand même, il y avait quand même du vrai. Et il y a du vrai sur, par exemple, la place de la spéculation dans la hausse des prix, ou même en fait quand il parle de la piscine de Waterloo, c'est la crise des services publics et des équipements publics. Bien sûr. Il y avait infiniment plus d'informations et d'éléments concrets que dans le numéro.
Emmanuel Macron n'avait pas parlé des pâtes et de la piscine de Waterloo.
Oui, mais il n'a parlé de rien. Il n'a parlé de rien.
Bah, on sent qu'il est perdu. On sent qu'il est perdu.
Là,
c'est pas très bien
numéro,
fait.
Il a parlé pour ne rien dire.
Je pense qu'il n'est pas perdu.
Ah bah, c'est ce que dit son entourage dès
le début de
la semaine.
Il n'y a eu aucun élément concret dans ce qu'il a dit.
Toute la soirée de dimanche, son entourage qui a parlé dans la presse a dit qu'il ne se rendait pas compte de ce qui se passait, qu'il ne voulait pas parler, et que c'est François Bayrou, Richard Ferrand, ses plus proches, qui lui ont dit « Convoque les patrons des différents groupes et exprime-toi auprès des Français ».
Ça ne tient sans doute pas. Il sait très bien ce qui se passe. Il choisit la meilleure tactique pour lui et il cherche comment sauver les meubles. Voilà, il n'est pas, il sait précisément.
Mais tout le monde lui dit non. Pas de coalition, pas de coalition.
C'est pourquoi la stratégie. Je vous répète, déconnons sa stratégie ce soir. Je renvoie la responsabilité sur les autres.
Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Ils jouent le pourrissement et dans
exactement.
Un pays dissous.
Je gagne du
regardez,
temps.
Et regardez, ils n'ont pas voulu.
Je gagne du temps. J'avance. Pour le moment, je ne change rien. Bien sûr. Parce que c'est quand même ça. Je ne change rien. Elisabeth Borne, que je sache, est toujours Premier ministre de la France.
Il ne faut pas rajouter une crise à la crise.
Je ne change rien. Bon. Donc c'est ça. Donc ça, c'est... Comment dire,
il cherche semblant de ne pas avoir.
Il cherche la meilleure tactique, la meilleure stratégie, appelez ça comme vous voulez, pour, entre guillemets, avancer. Il y avait une autre possibilité ce soir, c'est de faire le général de Gaulle à Colombey.
Non, mais ce n'est pas dans le tempérament d'Emmanuel Macron.
C'était une solution de dire, madame, monsieur...
Ça, c'est le déserteur.
Mais parce que peut-être y a-t-il une vraie cécité liée à son narcissisme aussi. Hein, parce que les sujets sont toujours les mêmes. Le pouvoir d'achat, mais on ne parle pas de la dette absolument abyssale. L'hôpital, mais on ne parle pas du déclassement et de la faillite de l'éducation nationale.
Nadine Morano est là.
Toujours les mêmes sujets.
Nadine Morano, alors on ne se quitte plus non plus. On était avec David Guiraud ce matin. avec vous, alors,
vous avez des nouveaux chroniqueurs.
Nadine Morano, vous avez pris un abonnement à notre chaîne. Bon, je dis ça en même temps, c'est moi qui vous ai demandé. De réagir. Votre analyse, bonsoir Madame Morano, votre analyse.
Mon analyse, c'est que Emmanuel Macron découvre le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il découvre les institutions. Venir à la télé pour nous expliquer qu'en fait, enfin, ou tenter d'expliquer qu'il aura du mal à avoir une majorité, tout simplement parce qu'il a reçu un vote de défiance des Français. À l'élection présidentielle, les Français ont voté contre Marine Le Pen. Après, il veut que les groupes prennent leurs responsabilités. Mais les groupes politiques prendront leurs responsabilités et ils ne sont pas aux ordres d'Emmanuel Macron. Ils ont été élus sur un programme devant les électeurs. En ce qui nous concerne, il n'y aura évidemment pas de blocage, mais il n'y aura pas non plus de compromission et pas non plus de textes que nous n'amenderons pas. Il découvre qu'on va amender des textes, mais ça fait 5 ans qu'il aurait dû découvrir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Voilà, est-ce qu'il est prêt à faire en sorte que le prix des carburants descende à 1,50 € puisque nous voulons ramener le prix des carburants à 1,50 €? Est-ce qu'il est prêt à baisser la CSG pour donner plus de pouvoir d'achat aux salariés et aux retraités par ailleurs? Est-ce qu'il est prêt en termes de sécurité à amener des avancées? Voilà, de toute façon, nous, on fera notre travail de parlementaire, c'est-à-dire que on va déposer des amendements, déposer des propositions de loi et représenter les Français à l'Assemblée nationale. Alors ça lui fait tout drôle, mais c'est comme ça que ça marche en fait. Et quand il parle, il compare avec l'Italie ou l'Allemagne, c'est pas du tout le même mode de scrutin. Et là, pour la première fois de la Ve République, on se retrouve avec un scrutin majoritaire où on a une Assemblée nationale qui ressemble à un vote à la proportionnelle. Donc il est coincé dans un étau qu'il a lui-même construit. C'est ça le sujet.
Oui, mais je trouve que dans ce que vous dites, il y a comme si vous aviez entendu précisément Emmanuel Macron, parce que vous dites on va déposer des amendements, on va discuter. Donc ça, on est là dans ce qu'il dit d'une certaine manière. Compromis nouveau, gouverner ensemble, dépassement politique. Parce que si vous arrivez à amender les lois proposées et à les voter ensuite, on est exactement dans ce qu'a dit le président de la République, Nadine Morano.
C'est exactement, Pascal Praud, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pendant pendant 5 ans, quand on a déposé des amendements, le gouvernement ne les acceptait pas. Reprenez l'exemple que j'ai donné ce matin. En ce qui concerne, par exemple, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, ça avait été rejeté par son gouvernement, alors que nous avions déposé des textes et des amendements sur ce sujet. Et quand il parle de dépassement politique, la manière dont il fait le dépassement politique, lui, c'est du débauchage et de la trahison individuelle à chaque fois. Oui, c'est pas ça.
Et ça peut être un paradoxe, peut naître de cette situation qui paraît complexe ce soir, quelque chose de positif peut-être pour les Français, mais aussi pour vous, puisque vous peserez sur les lois, ce qui n'était pas le cas depuis 5 ans, et peut-être est-ce quelque chose d'intéressant aussi. J'essaye d'imaginer la suite.
Pour les Français, il devra apprendre le compromis, à respecter l'opposition, à respecter les parlementaires, les élus, ce qu'il ne faisait pas auparavant, puisque l'Assemblée nationale, c'était avec ses députés En Marche, une chambre d'enregistrement de ce qu'il voulait faire.
Nadine Morano, soyons honnêtes, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que quand un président avait une majorité...
Non, pardon.
Vous avez le sentiment que les autres majorités sous d'autres présidents étaient plus ouvertes aux idées des autres ?
Oui, je peux vous dire que pour avoir été parlementaire moi-même, je vais prendre des textes, par exemple, sur la sécurité intérieure, le nombre d'amendements qu'on acceptait du côté de la gauche, et sur tous les sujets, on a toujours travaillé avec l'opposition en acceptant des amendements et en acceptant des compromis. Ce qui n'est jamais le cas avec la majorité d'Emmanuel Macron, qui ne respectait absolument pas l'Assemblée nationale. C'était incroyable, quoi.
Bon, bah écoutez, merci. Vous êtes à Bruxelles ce soir ?
Oui, je suis dans mon bureau, là.
Et le président de la République sera d'ailleurs à Bruxelles, je crois.
Oui, demain, pour 2 jours, pour donner le statut de candidat, sans doute, à l'Ukraine.
Bon. Et j'ai l'impression que vous tenez bon pour le moment, les Républicains. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez craquer, mais j'ai l'impression que la ligne est ferme. Vous ne transigez pas.
Et il y a Jean-François Copé, quand même. Il y a Jean-François Copé.
Alors, on va le recevoir, Jean-François Copé. On va le recevoir lundi, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à part Jean-François Copé, qui est dans une grande voie des Républicains, j'ai le sentiment quand même qu'il y a consensus pour être assez ferme sur les positions, Nadine Morano.
Pour respecter, en plus, nos électeurs. Les députés qui ont été élus ont été des députés élus dans leur territoire sur la base d'un programme d'opposition à Emmanuel Macron, parce que nous n'avons pas la même vision à la fois de la France, de l'Europe, mais aussi des sujets économiques. Voilà.
Bon, merci Nadine Morano, et passez une excellente soirée donc à Bruxelles.
Pour compléter ce que disait Nadine Morano, c'est vrai qu'il y a quand même eu quelque chose d'inédit lors de la dernière législature, c'est le recours aux ordonnances, 368 recours aux ordonnances. Ça veut dire que le Parlement donne au gouvernement, le pouvoir de légiférer. Alors c'était souvent lors de la crise sanitaire, mais le Sénat a même demandé une enquête sur un recours inédit aux ordonnances.
Oui, mais là il n'y aura plus possible, parce que c'est quand même le Parlement, il faut une majorité.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que concrètement, par exemple...
Là, c'est parce qu'ils avaient la majorité absolue.
Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le pass sanitaire...
Non, mais c'est pour dire qu'à l'époque, le Parlement était vraiment, du coup, comme une chambre d'enregistrement. Maintenant, ce n'est plus possible et c'est une bonne chose. Mais on peut dire, du coup, qu'effectivement, Emmanuel Macron apprend ce qu'est désormais le fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Et je vous disais tout à l'heure que souvent, c'est ce qu'on a dit de l'Assemblée nationale. Mais concrètement, pour le fonctionnement, parce que les gens ne comprennent pas forcément... toujours comment ça se passe. Imaginons une crise du Covid qui revient massivement. Le pass sanitaire, pour le mettre en place, il faut qu'il y ait une majorité, cette fois-ci, à l'Assemblée nationale.
Parfait.
Nous sommes d'accord, ça ne peut pas être.
Tout à fait.
Il ne peut pas, ça peut pas être décrété.
Non, et on se souvient la dernière fois des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée, oui, puisque le Sénat était à droite.
Et surtout, rappelons que là, Emmanuel.
Ça ne peut pas passer en décret, c'est ce que je voulais dire, en passe sanitaire.
Emmanuel Macron, pendant ce quinquennat, a priori, et c'est ça, à mon avis, qui doit aussi beaucoup le gêner et lui déplaire, c'est qu'il. Très probablement, il ne pourra pas modifier la Constitution parce qu'il n'aura pas la majorité nécessaire des deux tiers en réunissant Assemblée nationale et Sénat. Et donc,
sur la proportionnelle. Peut-être que là, je peux vous dire que la NUPES et le RN voteraient en faveur de la proportionnelle.
Mais peut-être, oui, mais
par exemple, à quoi bon la proportionnelle ?
Troisième mandat.
À quoi bon la proportionnelle ?
Puisque
là aussi, on a dit pendant des années des bêtises. À quoi bon la proportionnelle ? Puisque le scrutin majoritaire à 2 tours a permis une représentation.
Oui, mais c'est inédit. Là, on est dans une situation inédite.
C'est inédit, oui, bien sûr. C'est
inédit. Voilà, c'était pas arrivé il y a 5 ans, alors que Marine Le Pen était déjà au second tour.
Il y a quelque chose qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y aurait peut-être à entendre parler Nadine Morano, une possibilité de macronisme parlementaire en se disant qu'il va avancer sur son chemin, en faisant toujours du en même temps, mais au cas par cas avec les lois, des lois économiques, etc. La GPA, il la votera évidemment avec la NUPES, etc. Et des choses comme
c'est ça. C'est dans son programme, la GPA. Hein.
Comment ?
C'est pas dans son programme, il a dit qu'il était contre pendant la campagne présidentielle.
Oui, bah alors peut-être que la NUPES lui imposera et que ses députés voteront. Peut-être qu'il perdra le contrôle non, mais de ça. Mais
je le répète, ça peut être très intéressant pour les Français, peut-être. C'est-à-dire qu'on va peut-être nous-mêmes être surpris et découvrir un nouveau mode de fonctionnement, pas comme le président de la République le dit ce soir d'ailleurs, mais parce que au fond, le président de la République ne sera plus grand-chose. Oui, et ça sera le Parlement surtout, qui
le
décidera.
Le pouvoir partait tout le temps par le haut, ouais. Et là, pour la première fois, il va partir par le bas.
Oui, mais il partira.
Oui, alors, là encore, faudrait. Sur la 5e République, je vous assure.
Comment est-ce que le RN va pouvoir imposer, par exemple,
le pouvoir de la 5e, il est fort, il reste présidentiel très
fort. Rappelons quand même une chose importante, oui. C'est que Emmanuel Macron n'a jamais été député, et donc il n'a aucune expérience interne de parlementaire, et Mme Borne, jusqu'à dimanche, n'avait jamais été députée non plus. Là, elle vient d'être élue.
Elle a été mise pendant 5 ans avec des questions au gouvernement tous les mercredis.
Alors, monsieur Sanchez.
Le fonctionnement interne du jeu. Voilà, la buvette de l'Assemblée, typiquement, ils n'ont pas cette culture
parlementaire. Ils ne connaissent pas la tombouille, l'expérience.
Ils ne connaissent pas cette culture parlementaire, contrairement à tous les politiques qui les ont précédés.
Bon, c'est un discours sans doute qu'il avait ce soir qui s'adressait plutôt à la droite, et c'est ce qu'a dit David Guiraud très justement. Le discours, c'était ne me censurez pas.
Et les républicains qui sont dragués depuis
ne me censurez pas et je passerai vos amendements.
Vous avez vu l'appel
Comment ?
L'appel d'Edouard Philippe à une coalition avec les républicains.
C'était, je veux dire, David Guiraud, pour le coup, c'est lui qui a bien compris. Il a dit c'est pas nous qui parlait ce soir, c'était à la droite. Et Nadine Morano.
Et au PS.
Je vais faire marquer, et c'est assez juste, qu'elle-même se place dans la situation où. Vous proposez une loi et nous, on arrive avec nos amendements. Et c'est ça le deal. C'est ça qu'il dit, Emmanuel.
David Guiraud a dit la même chose.
Comment ?
Il a dit la même chose, David Guiraud. On gardera le texte de loi. Ce qui nous plaît, on le prend. Et ce qui ne nous plaît pas, on ne le prend pas.
Oui, mais
c'est normal parce qu'il ne faut pas apparaître comme des saboteurs ou des bloqueurs systématiques aux yeux de l'opinion.
C'est la grande phrase, nous serons une opposition constructive.
En fait, tout repose sur les LR, effectivement. Est-ce que les LR vont vouloir aller au clash avec une motion de censure ou pas ? Et là, il y aura discussion à l'intérieur. Certains diront, pour faire passer nos idées, avançons avec le président Macron, avançons et amendons. Et d'autres diront, non, on va au clash, on va à la rupture. Bon, je l'imagine.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les LR ne voteront pas la motion de censure de la France insoumise.
S'il n'y a pas de motion de censure,
ah oui, voilà.
Se mettre d'accord préalablement sur un texte assez neutre.
On met notre programme en place.
Mais NUPES plus Rassemblement National, ça ne renverse pas, que je sache, un gouvernement. Donc si le LR, en fait, c'est formidable d'ailleurs pour le LR. C'est vraiment le pivot.
C'est la pointe.
Alors qu'ils ont fait 4% à la présidentielle.
Avec Valérie Pécresse.
Oui, qui est toujours là.
Oui, mais peut-être qu'ils auraient fait plus avec un...
Avec Michel Barnier, ils auraient peut-être fait 4,5, oui.
Bon. Il est tout jeune, vous vous rendez compte. C'est un garçon qui... Vraiment, mais vous êtes terrible, en fait.
Mais ça fait longtemps que je n'avais pas fait l'heure des pros.
Monsieur Barnier, il vous écoute, mais il doit se dire, mais quel est ce jeune homme
si lucide.
Impudent. Bon. Julien Sanchez, porte-parole, Rassemblement National, maire de Beaucaire. Je pose toujours la même question à nos intervenants ce soir. Votre analyse ?
L'analyse du discours d'Emmanuel Macron, c'est un peu parler pour ne rien dire. Je crois qu'il voulait montrer et faire croire qu'il est ouvert. C'est tout le contraire de ce qu'on a vu pendant 5 ans, puisqu'il n'a absolument pas écouté son opposition. Aucun amendement de l'opposition n'a été voté par ses députés pendant 5 ans. Donc il essaie de nous faire croire ce soir qu'il va changer. La réalité, c'est que les Français l'ont sanctionné dans ces élections législatives et qu'aujourd'hui, il n'a pas le choix que de tenir ses propos. En tout cas, nous ne sommes pas dupes et notre rôle pendant ces 5 ans, le rôle de nos 89 députés, ça va être de parler des vrais sujets, des vrais problèmes des Français qui ont été, il faut le dire, éclipsés des débats de l'Assemblée nationale pendant 5 ans.
Et donc peut-être de proposer des lois, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant pour la première fois avec votre entrée au Parlement, c'est que vous allez pouvoir proposer des lois très précises, et puis après, chacun va choisir son camp, d'une certaine manière. Chacun va pouvoir dire, je vote pour vous, ou au contraire, je ne suis pas d'accord avec votre loi. Et ça, ce n'était pas possible dans l'ancienne Chambre. Donc ce qu'on attend de vous, j'imagine, c'est ces propositions précises de loi sur la sécurité, sur l'immigration ou sur d'autres sujets, qui fassent que chacun
doivent se déterminer ensuite sur la loi que vous avez proposée.
Bien sûr, et c'est ce qu'a préparé déjà Marine Le Pen. Elle en avait parlé justement pendant la campagne présidentielle, à la fois sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'islamisme. Elle a préparé justement des propositions de loi qui sont déjà prêtes et que nous allons pouvoir, avec nos députés, eh bien, proposer. Et là, on verra effectivement ce que vote chacun, ce que vote les Républicains, ce que vote d'autres. C'est des thèmes qui sont importants et je le redis, qui ont été complètement éclipsés des débats. Aujourd'hui, dans la vie quotidienne des Français, il y a le sujet du pouvoir d'achat. Nous proposons de baisser la TVA de 1 à 5,5% sur les énergies. Il y a le problème de la sécurité, du laxisme judiciaire. Vous savez, j'étais suppléant de mon candidat aux législatives parce que je suis maire, donc pour le cumul des mandats, je ne pouvais pas être candidat. Et quand j'ai fait du porte-à-porte à Nîmes, dans ma circonscription, près d'un quartier sensible, tous les gens que j'ai vus m'ont dit on s'est fait cambrioler dans la dernière année. Voilà aujourd'hui le quotidien des Français dans beaucoup de quartiers de France. Et ces problèmes de sécurité, ces problèmes de laxisme judiciaire, ces problèmes d'insécurité du quotidien, de restriction des libertés, les gens se restreignent eux-mêmes de sortir passer une certaine heure. Tout ça, il faut en parler, il faut l'aborder, et il faut le solutionner. Et effectivement, je pense que c'est le lieu, l'Assemblée nationale.
C'est intéressant. Le laxisme judiciaire, c'est un peu vague, forcément, mais peut-être que souvent on a parlé de ces thèmes-là. J'attends celui qui proposera une loi pour les multirécidivistes, qui est un drame absolu, absolu, les multirécidivistes, puisque ce sont généralement, c'est ce que j'entends des policiers qui disent on prend quelqu'un, on l'a pris 25 fois. Et j'attends une loi de type tolérance zéro pour ceux qui en sont à leur troisième, quatrième, cinquième ou sixième braquage et qu'ils soient. J'allais dire écarter définitivement de la société. Alors, je pense que c'est compliqué, bien évidemment. Mais je pense que les Français attendent, par exemple, c'est un exemple très concret que je vous dis, pour lutter contre l'insécurité, une loi sur ceux qu'on prend régulièrement et qu'on appelle les multirécidivistes, ça c'est intéressant.
Oui, et je crois que sur ce sujet-là, il y a des choses qui sont très simples à faire, à la fois les peines planchées, parce qu'aujourd'hui, beaucoup bénéficient d'un certain laxisme et qui peut parfois tendre vers la complicité d'une partie des magistrats, notamment de certains syndiqués, on sait de quel côté. Et puis ensuite, on voit aussi que les immigrés qui commettent des crimes et des délits devraient pouvoir être renvoyés dans leur pays. À un moment, il faut aussi parler de ces sujets-là, de ces questions-là, parce que je crois qu'il y a, de ce point de vue-là, beaucoup à dire. Enfin, les places de prison. On sait que les places de prison sont en nombre insuffisant. Il faut en construire et il faut ramener la sécurité dans les quartiers. Moi, je vois que dans beaucoup de villes, dans beaucoup de quartiers, c'est une vingtaine de personnes qui terrorisent.
Nous sommes d'accord et c'est ce que vous disiez sur la sécurité. Je vous remercie beaucoup, monsieur Julien Sanchez. Je rappelle que vous êtes porte-parole Rassemblement National, maire de Beaucaire. Je pense que nous avons fait le tour de ce qu'on pouvait dire ce soir sur Emmanuel Macron, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Il se trouve qu'Éric Zemmour...
C'est-à-dire qu'on parle beaucoup quand même de compromis, j'ai même entendu parler de coalition. Il faut quand même voir que d'un point de vue culturel, les Français ne sont pas des Allemands ni des Suédois. Ce n'est pas la même culture politique, ni la même culture, ni la même psychologie tout court. Les sociétés, par exemple, germaniques ou scandinaves sont des sociétés de compromis, ce qui n'est absolument pas le cas de la France.
C'est vrai sous la quatrième.
Non, mais ça se voit même dans l'entreprise. Vous voyez bien qu'en Allemagne, vous avez une culture de la cogestion dans l'entreprise. En France, vous avez beaucoup plus une culture de syndicat de combat et de la conflictualité sociale. Et ça se retrouve au niveau politique parce que pour plusieurs raisons, déjà une raison de psychologie collective, et ensuite parce que l'imaginaire politique français est marqué depuis plus de deux siècles et jusqu'à aujourd'hui par un événement qui est la Révolution française et qui est la grande matrice de nos représentations politiques. Et ça se voit aujourd'hui. Donc voilà, la France, ce n'est pas le pays du compromis politique et on ne peut pas changer le peuple. Je sais que c'est le grand fantasme des élites françaises, de M. Macron, de M. Philippe.
D'avoir
de
fait une assemblée où le compromis doit avoir lieu.
Le fantasme d'Emmanuel Macron, ça serait d'échanger les Français contre des Allemands. Simplement, les Français, ils n'ont pas l'intention de partir et donc la France, ce n'est pas le pays du compromis politique.
Les Gaulois réfractaires.
Pardon. C'est d'autant plus compliqué que pendant 5 ans, tout ce qui n'était pas marcheur passait pour des extrémistes. Donc,
oui, de toute façon, mais effectivement. Bon. Le compromis entre Julien Sanchez et Éric Dupond-Moretti, quand il parle de peine planchée, qu'on a un garde des Sceaux qui est...
Surtout le compromis avec des gens sur qui qu'on a dénigré pendant 5 ans.
Voilà, c'est ça.
on ne change
rien. Et encore ce matin, Olivier Véran.
Exactement, qu'il exclut.
On ne change rien à l'Élysée, ça peut agacer.
Il faut que tout change pour que rien ne change. Oui, c'est un peu ça.
Oui, c'est alors.
Le guépard.
C'est le guépard. Voilà. De Visconti. Qui
exactement. Oui, quoi, de Lampedusa d'abord. Comment dire.
Magnifique Claudia Cardinale.
Burt Lancaster.
Oui. On peut en parler pendant 6
minutes. Ah, ça serait plus intéressant que de commenter la locution assez vague.
Du... Alors, quand même une période politique intéressante.
Essayons de synthétiser. J'y suis, j'y reste. Rien ne change pour le moment. Je parle à la droite. Aidez-moi. Ou plus exactement, ne me censurez pas. Et je passerai vos amendements.
Voilà. Que je n'ai pas passé pendant 5 ans, même quand ils étaient.
Je passerai vos amendements, oui.
je
le dis pas aussi clairement. Hein.
Bien sûr. Mais bon, voilà. Je drague.
Je joue la montre, vous l'avez dit, je joue la montre. Et je joue le pourrissement. Je joue le pourrissement.
Et je fais porter la responsabilité des blocages aux autres.
Bon, Éric Zemmour était tout à l'heure sur CNews. C'était intéressant, c'est une de ses premières interventions depuis.
La première.
La première depuis
sa défaite.
Vous n'avez pas fait une petite interview avec vous
Non, il n'a pas parlé. Défaite. Il a fait son discours et puis il a refusé. Il a annulé tous ses duplex.
Quelques tweets, il a fait.
Voilà. Bon. Ses équipes d'ailleurs, parce que là, on l'a vu tout à l'heure, il n'était pas au courant de tous les tweets qu'il avait fait. C'est ses équipes qui tweetent à sa place. Je ne suis pas sûr qu'il lui montre à chaque fois.
Ah bon?
Oui, bien sûr.
Ça, c'est ennuyeux quand même.
Ah oui, bien sûr.
Bon. Il y a 2 ou 3 passages peut-être qu'on peut écouter. Alors là, le premier passage, c'est ingouvernable. Et on retrouve là l'analyste politique.
Il rappelle... Bien meilleur que le candidat.
Et voilà.
Mais peut-être avez-vous raison. Peut-être avez-vous raison. Il rappelle les conditions de la Ve République, Michel Debré, qui avait imaginé, parce que les gens ne s'en souviennent pas, il avait imaginé une constitution, il pensait qu'il n'y aurait pas de majorité absolue. Donc tout était quand même verrouillé pour que le pouvoir reste présidentiel. D'où 49-3, d'où vote bloqué, d'où etc.
Dissolution,
d'où dissolution, etc. Donc c'était assez intéressant là aussi son analyse. Et comme toujours chez Éric Zemmour, il y a une qualité historique puisqu'il connaît bien ces sujets-là. Écoutons.
Comme quoi, il ne faudrait jamais changer.
En vérité, on dit crise de régime. On dit crise de régime, crise politique, parce que le gouvernement et Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue. C'est vrai que c'est inédit depuis l'instauration du quinquennat et le renversement du calendrier. Là, pour la première fois depuis cette époque-là, c'est-à-dire depuis quinzaine d'années, les Français n'ont pas donné une majorité absolue. Mais ils ont quand même donné une majorité au groupe qui soutient Emmanuel Macron. Et personne d'autre, aucun autre opposant, n'a la majorité. Ni la NUPES, le groupe autour de LFI, ni le Rassemblement National. Deuxièmement, il faut que tout le monde comprenne bien que cette situation sans majorité absolue est justement ce qu'a prévu le père de la Constitution, Michel Debré. Il n'y a pas de crise de régime. Au contraire, cette situation a été prévue à l'origine par les constituants et par le père de la Constitution, Michel Debré, avec évidemment le général de Gaulle. Tout ça est conçu. Donc, comprenez bien ce que je dis. La situation est nouvelle, la situation est inédite, mais on revient à l'origine de la Ve République. En tout cas, les institutions sont faites pour cette situation.
Et contrairement, moi ça m'agace souvent quand j'entends dire qu'il faut changer de République, je trouve que nos institutions, justement, elles arrivent à s'adapter à toutes les situations politiques depuis 60 ans. S'il y a un truc qui marche bien dans notre pays, au moins c'est nos institutions.
Michel Debré.
La preuve.
Mais parce que ah oui. Michel Debré
a conçu. Encore plus, ça marchait.
Pardonnez-moi, Michel Debré a conçu la Ve République en tirant les leçons de la Quatrième, dont les gouvernements duraient chaque fois pas plus de 7 mois. Pierre Mendès-France, par exemple, c'était 7 mois de gouvernement. Oui. La gauche en fait un mythe. C'était 7 mois.
Oui, mais elle permet, selon toutes les configurations politiques. Elle est souple,
oui, tout à fait.
Cette constitution, contrairement à ce
que... Non, mais c'est un chef-d'œuvre. La première fois que le parti de Gaulle a eu une majorité absolue, c'était pas avant 1968.
Oui, en 58.
L'UNR n'a pas eu de majorité absolue, et ça marchait avant. Ouais. Et la seule motion de censure qui a marché était en 62.
Ça marche.
Donc en fait, tout ça, effectivement, un retour absolu au principe de la
République. Et d'ailleurs, en 58, il y avait beaucoup de recours au 49-3 parce que justement, il n'y avait pas de majorité absolue.
49.3 qui est beaucoup plus encadré aujourd'hui.
C'est ce qu'il a dit. Cette
constitution de la Ve République, elle est absolument magnifique. C'est un travail d'orfèvre. Vous savez d'ailleurs qu'elle a été imitée dans plein de pays. Le Kazakhstan, par exemple, quand ils sont devenus indépendants, ils sont fait venir des juristes français, ils ont imité la constitution de la Ve. Enfin, vraiment, c'est un travail de Debré, de Capitan, c'est un travail absolument magnifique. Le seul problème, c'est que ce travail magnifique a quand même été beaucoup défiguré depuis par toutes les réformes.
Vous
le quinquennat, la réforme voulue par Nicolas Sarkozy. Donc ces réformes de la Constitution,
le quinquennat, c'est Jacques Chirac.
Et ensuite, se sont ajoutées à ça les réformes de Nicolas Sarkozy.
Limite à deux mandats.
Voilà, exactement. Et donc les différentes réformes.
Ce qui change pas fondamentalement la Constitution à deux mandats.
Non, mais il y a eu beaucoup de choses.
Oui.
Voilà.
De limiter à deux mandats consécutifs, ça change pas.
Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point absolument fondamental dans l'esprit du général de Gaulle, c'est, qui s'inscrit d'ailleurs dans une tradition française bonapartiste, c'est le recours au référendum. Or, des référendums, le dernier référendum qui a été fait, c'est en 2005. Et en plus, on n'a pas tenu compte du référendum. Du résultat. Ça fait 17 ans que dans ce pays, il n'y a pas eu de référendum, alors que c'est l'une des clés de voûte des institutions et de l'esprit de la Ve République.
Mais vous feriez, par exemple, un référendum sur quoi aujourd'hui ?
Sur plein de choses, ça dépend.
Sur quoi,
ça dépend. Si j'étais LFI, je ferais un référendum sur des sujets LFI. Si j'étais RN, je ferais un sujet... Bah, par exemple, vous en parlez souvent, un référendum sur l'immigration.
Oui, mais ça serait quoi, la question ?
Par exemple, est-ce qu'on met des quotas ? On peut, par exemple, un projet... Vous faites une ensemble de lois. Ou alors la retraite à 65 ans. Enfin, il y a plein de sujets.
Vous allez faire un référendum sur la retraite à 65 ans.
Vous avez peur de la démocratie.
Non.
Vous avez peur du peuple. On n'a pas fait de référendum depuis 2005.
Oui, mais je veux bien qu'on fasse un référendum sur les 65 ans.
Et on ne l'a pas respecté.
Bon. Oui, oui.
Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni Emmanuel Macron n'ont fait de référendum.
Mais 2005, nous sommes d'accord, là aussi, ça jouait, et c'est très important ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas respecté ce qui était dit. Bon, deuxième passage d'Éric Zemmour, les LR, nous dit-il, c'est du passé.
LR, c'est un centre de formation de ministres d'Emmanuel Macron depuis 5 ans. Il y a ceux qui sont partis il y a 5 ans, il y a ceux qui sont partis comme Damien Abad, il y a quelques semaines, et il y a ceux qui rêvent d'en partir. J'ai vu que Jean-François Copé frétillait à l'idée de rejoindre la Macronie et de redevenir enfin ministre et de retrouver sa voiture avec ses petits fanions. Maintenant, il y en a d'autres qui ne voudront pas rejoindre Emmanuel Macron, soit par conviction, soit par calcul politique, pour pouvoir être l'opposant dans 5 ans dans la présidentielle. Comment ?
LR n'est pas mort, le parti n'est pas mort.
Moi, je pense que LR n'a plus d'espace. Pour les gens, j'ai l'impression que LR est déjà du passé. LR est une aile macronienne. Alors évidemment, les dirigeants de LR tentent de retenir leurs troupes, de dire mais non, nous serons dans l'opposition. J'attends de voir la suite.
Le problème d'Éric Zemmour, qu'on connaît bien comme candidat, comme analyste aussi, c'est qu'il dit les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient.
Parce que là, les LR ont un nouveau rôle.
Ça l'arrangerait. Bien sûr que le LR n'existe plus. C'est peut-être pas vraiment le cas.
Mais non, là, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont trouvé un vrai rôle.
Ça dépend de ce qu'ils vont faire. Mais s'ils se reconstruisent sur une ligne conservatrice et libérale,
La ligne Wauquiez.
Pour faire court.
Pas trop libéral. S'ils sont trop libéraux, ils n'auront pas les classes populaires.
Pour faire court. S'ils se reconstruisent là-dessus, il me semble qu'il y a un espace, précisément. Mais en revanche, s'ils ne définissent pas eux-mêmes de ligne...
Surtout qu'il y a des gens comme Marleix qui sont vraiment intellectuellement excellents aux Républicains. Voilà.
Est-ce qu'on a le temps d'écouter deux fois Éric Zemmour ? Je ne suis pas sûr. Donc on ne va peut-être pas faire le mea culpa parce qu'on avait prévu 4 passages. Alors il a dit je ne ferai pas de mea culpa parce que les gens veulent que j'en fasse un, mais je ne le ferai pas.
Surtout pas d'autocritique, on continue tout pareil. Ça, on fera peut-être deux fois moins.
Mais en revanche, écoutons ce qu'il dit sur Reconquête parce que lui continue, et ça c'est quand même une information, il continue et il pense déjà à 2027.
Je continue, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, je vais marcher sur mes deux jambes. L'un, la politique active, les élections, etc. Deux, l'analyse, c'est-à-dire la réflexion, c'est-à-dire le combat culturel, le combat idéologique. Moi, je veux mener les deux combats.
Bon, ça c'est intéressant parce qu'on aurait pu imaginer qu'il dise « Voilà, j'ai eu un échec présidentiel, j'ai eu un échec législatif, j'arrête. » Non, il continue. Il n'a pas de...
On ne comprend pas très bien la forme que va prendre la suite. Hein. Moi, j'ai vu plusieurs de ses proches cette semaine. Oui. On sent bien qu'il y a un peu un moment de doute et qui sont un peu perdus. Alors, il écrit un livre, il va faire des universités d'été, mais enfin, ce n'est pas très concret tout ça.
Oui, mais surtout qu'il a l'air d'avoir de graves tensions internes.
Justement, il y a des idées.
Graves tensions internes. Il a raison.
J'ai une pensée, je vous assure, j'ai une pensée régulière.
Il y a Jacqueline Mourot, qui est ex-Gilet jaune, qui balance sur ce que dirait Éric Zemmour en privé maintenant.
Bon, en tout cas, j'ai une pensée à chaque fois pour les députés de Marine Le Pen qui sont passés en février-mars chez Reconquête. Ah oui. Donc ceux-là ont un sens politique quand même très pointu, manifestement.
Mais ils ont peut-être aussi, il y avait quand même une ligne. Il y avait quand même une espèce de ligne plus conservatrice et libérale.
Oui, mais bon,
ils ont choisi de rejoindre. Alors après.
Et maintenant, on dit qu'il y a des graves tensions avec Gilbert Collard, qui a quitté le RN et qui aurait maintenant de graves tensions avec Gilbert Collard.
Mais surtout, oui, mais bon, la tension, les tensions dans tous les groupes humains.
C'est toujours pareil.
Voilà, les tensions dans un vestiaire de football ou dans une équipe qui a perdu la présidentielle, c'est quand t'as perdu, t'as perdu.
Oui, mais la.
Voilà. Je connais les hommes, monsieur. Je sais comment ils sont dans la défaite.
Les vestiaires du FC Nantes, mais donc. Mais donc, la force au départ d'Éric Zemmour, c'était d'avoir identifié qu'il y avait un espace entre, dans lequel se glisser entre LR et le RN. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas occupé cet espace, il s'est mis à la droite du RN et il a contribué à normaliser Marine Le Pen en ayant lui-même un positionnement extrémiste.
Et la phrase sur les classes populaires qui a fuité dans la presse va,
pas lui faire du bien.
À la réalisation, Laurent Capra, alors que j'ai l'impression que Julien Pasquet est en train d'entrer et il va pouvoir prendre notre suite à la vision Bouka Abella, où sont Philippe et Zaven. Je remercie vraiment Benjamin Nau, Naomi Benamou, Théo Grévin et notre petit nouveau venu Éloi Rochebrun. Et donc Julien Pasquet dans une seconde. Et pour vous faire patienter, réécoutons quelques minutes, quelques secondes d'ailleurs plutôt, de l'intervention d'Emmanuel Macron, président de la République. À tout de suite.